Alors donc, je m'appelle Laurent Romefort, je suis psychologue. J'ai une activité de psycho très variée. J'interviens en libéral encore, avec des enfants, des ados et des adultes, depuis maintenant près de 18 ans. Alors avec les adultes, c'est beaucoup de travail sur les problématiques liées à l'activité professionnelle. Le burn-out, évidemment, les situations de harcèlement, et puis toutes les pathologies qui ont émergé avec la période Covid, qui se sont surajoutées avec la période Covid. Et puis chez Peers, j'interviens plus particulièrement sur les thématiques de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail et de gestion de crise. J'ai été pendant un peu plus de 6 ans sapeur-pompier expert-psychologue dans le SDIS du Rhône, où je travaillais sur au départ la prise en charge et la prévention du stress post-traumatique. Et puis, à la faveur d'un événement dramatique qui est arrivé en 2008, j'ai été amené à participer aux réflexions sur la gestion de crise et sur la gestion de catastrophe, qui est une crise particulière, puisque, à la différence des autres crises, elle touche le système qui doit justement résoudre la problématique critique. Et puis, je suis formateur en cellule de crise, en gestion de crise. J'ai formé toutes les directions des prisons de la région Rhône-Alpes-Auvergne pendant 10 ans. Ils n'avaient rien en termes de cellules de crise, donc il a fallu tout créer avec les groupes d'intervention, en s'appuyant sur ce que la gendarmerie faisait, le RAID, sur ce que font les pompiers ou ce que font d'autres groupes comme ça un peu particuliers. Et pendant 10 ans, on a formé, on a construit, on a formé tous les protocoles de prise en charge des situations de crise. Donc en prison, vous imaginez que ça va de ce qu'on appelle le refus de réintégrer, donc anciennement c'était des mutineries, à la prise d'otages ou aux agressions entre détenus ou envers le personnel. Et du coup, avec ces deux expériences, j'ai été amené plusieurs fois à apporter mon support dans des situations de crise en entreprise, donc dans des milieux très variés, aussi bien l'industrie que des PME, que le secteur médical ou hospitalier, ou même dans des structures associatives. Alors, mon champ de ce qui m'amène à intervenir aujourd'hui auprès de vous, c'est que moi, je travaille exclusivement sur l'humain. Alors, on trouve de l'humain dans tous les types d'organisations, mais il y a deux approches. Il y a l'approche du sujet en tant que tel, donc là, c'est vraiment la porte de la psychologie. Et puis, il y a l'approche du sujet comme étant un élément d'un groupe. Et il y a un ensemble de paramètres, d'influence entre le sujet, la personne, le groupe, et d'influence du groupe vers le sujet. Donc, c'est tout le champ de la psychologie sociale. Et ce que je souhaitais aujourd'hui, après en avoir discuté avec Charlotte et avec Pierre-Antoine, c'était de vous apporter un petit peu des connaissances particulières à partir de mon expérience, à partir de mon champ d'expertise. Alors, on parle dans le langage commun de crise ou de risque. On parle plus facilement de risque et puis de crise pour les situations excessives. Et puis, il y a une espèce d'idée selon laquelle anticiper les risques permettrait de se prémunir des crises. Alors, il y a des risques dans tous les domaines, évidemment dans le domaine de l'information, dans le domaine de l'environnement, dans les domaines financiers, dans les domaines psychosociaux. Et puis, on a une culture de gestion des risques qui nous emmène à essayer d'anticiper, de prévenir. Et puis, la conséquence un peu négative de cette culture-là, c'est qu'il y a un déni des crises potentielles, en particulier de la dimension humaine dans les crises potentielles. Pour autant, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien aussi solide que ça, entre le champ des risques et les situations de crise. Parce que les crises, parfois, apparaissent complètement en dehors de champs qui avaient été envisagés comme étant des champs assez, comment dire, assez prévisibles d'apparition de situations de crise.
D'accord. Vous parlez beaucoup des notions de crise et de risque. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus des définitions, ce que c'est en termes pour un psychologue?
Alors, moi j'ai maintenant presque 46 ans, j'entends parler de crise depuis que je suis au lycée. Quand j'ai commencé, j'étais en première en spécialité économique et sociale, et déjà on nous parlait de crise économique, ce qui fait que j'ai grandi dans un environnement qui est dans un environnement de crise permanente. Et en fait, on ne peut pas définir la crise comme ça. Nous, on a une définition de la crise d'un point de vue opérationnel qui s'appuie sur quatre principes. Pour qu'il y ait une crise, il faut qu'il y ait d'abord un effet de surprise. À partir du moment où on a pu anticiper la crise, il n'y a pas d'effet de surprise, même si la crise change un petit peu par rapport à ce qui a été envisagé. Donc d'abord un effet de surprise qui va créer au niveau psychologique quelque chose de particulier, une forme de sidération. Donc on va se fixer sur un aspect, ce qu'on appelle aussi éventuellement l'effet tunnel. Si vous voulez une image de la sidération, reprenez l'image du président Bush Jr. lorsqu'on lui a appris l'attaque du World Trade Center. Vous avez vraiment ce visage figé qui montre bien que derrière, dans son esprit, il y a quelqu'un appuyé sur le bouton reset. Quoi. Le cerveau n'est pas en capacité d'appréhender une information aussi complexe avec un tel impact. Il n'a pas du tout été, ça n'a pas du tout été anticipé. Et ça va générer à un niveau humain et à un niveau groupal, parce que ça, c'est quelque chose de très important, le groupe et l'institution, donc un groupe même très structuré, même très grand, va réagir à la crise de la même manière qu'un être humain seul. Donc on peut avoir des phénomènes de fuite panique et des phénomènes d'agitation complètement stériles, où ça va partir dans tous les sens, et pour autant, ça ne va rien produire de cohérent. Le premier point qui est essentiel, c'est cette notion d'effet de surprise. Le deuxième point, c'est l'impact émotionnel. Il y a toujours la menace, dans la crise, il y a toujours la menace de la destruction physique ou psychique de la personne, du groupe ou de l'institution. Et ça, ça va générer un impact émotionnel qui, au niveau physiologique, va déclencher énormément de choses. La sécrétion et la diffusion d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol, etc. Ce qui fait que, associé à la sidération liée à l'effet de surprise, il y aura une difficulté à reprendre une capacité de réflexion qui soit sereine et qui soit stabilisée. Troisième point, la question du dépassement des ressources. En situation de crise, on n'a pas les ressources pour faire face à ce qui nous tombe dessus. C'est pour ça que c'est une catastrophe lorsque la crise touche les sapeurs-pompiers, parce que les sapeurs-pompiers ont des protocoles, ont du matériel, ont de l'expérience pour toutes les situations qui concernent les civils. Mais quand il s'agit de prendre en charge un sapeur-pompier blessé comme le serait n'importe quel civil, là il y a un dépassement des ressources. La preuve en est, c'est qu'en 2008, quand on avait traversé cet épisode difficile à Lyon, on s'est rendu compte qu'aucun SDIS de France n'avait de protocole formalisé pour répondre à la question comment on se réadapte en intervention quand il y a un pompier blessé ou décédé. Ça montre bien que l'impact émotionnel à l'idée que l'un d'entre eux soit blessé les empêchait même d'anticiper et de se préparer à cette éventualité. Et ça, je l'ai vécu dans d'autres groupes d'intervention. Et puis le dernier point, donc, l'effet de surprise, l'impact émotionnel, le dépassement des ressources, et le dernier point, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand et comment on va sortir de cette crise, ce qui amène, dans le déroulé de la gestion de la situation de crise, un ensemble d'ordres, de contre-ordres, éventuellement d'injonctions paradoxales. Et cette incapacité à se projeter va, en soi, générer du stress aussi. C'est important, par exemple, de rappeler que pour la crise Covid, là je prends bien le terme de crise, parce qu'on a un ensemble d'éléments que l'on retrouve dans la définition que je donnais, même la capacité à se projeter dans le temps a été fortement atteinte. Souvenez-vous, 2020-2021, on était incapable de se projeter à plus de 3 semaines. Il n'y avait que les 9 mois de la grossesse qui n'avaient pas bougé, mais tout le reste était devenu un temps où on ne savait pas. On ne savait pas ce qu'on fait dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 3 mois, alors dans 6 mois, c'était carrément irreprésentable. Donc voilà les 4 critères essentiels pour définir la crise selon notre approche de psy ou selon une approche opérationnelle. Ça veut dire qu'une situation de crise qui dure, ben ce n'est pas une crise. Une crise, c'est forcément sur un temps court. Donc, les modalités de traitement d'une situation de crise sont inappropriées pour traiter une situation qui est amenée à durer dans le temps. C'est super important parce que ça veut dire que si on utilise le mauvais outil ou le mauvais format pour gérer une situation qui n'est pas une situation de crise, on se met dans une position qui sera vraisemblablement difficile pour conduire l'action à un terme positif. Le point vraiment essentiel qu'il faut que vous marquiez, c'est que la crise menace toujours l'intégrité du sujet ou de la structure. Il y a toujours, au fond, une question de vie et de mort. Vous voyez ? Alors, à un niveau symbolique, hein. Ce n'est pas forcément la vie ou la mort d'une personne, mais symboliquement, ça renvoie à ça. C'est cette question fondamentale qui est posée par la crise.
Ok, super, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous parliez de psychologie et psychologie sociale. On comprend donc que l'individu et l'entreprise ne réagissent pas pareil face à une crise, c'est bien ça ?
Alors, il va y avoir des modalités de réaction qui seront quand même assez similaires. Si on regarde la façon dont le sujet s'adapte à la crise, on va voir qu'il y a des choses qu'on retrouve dans l'organisation. D'abord, la première chose, c'est que la première réaction va être conduite par les émotions. Les émotions qui vont engendrer une fuite panique, une attaque, hein, une forme de sidération, ou autrement, c'est ce qu'on appelle, ça dure un peu plus longtemps que la sidération, l'inhibition de l'action, c'est-à-dire l'incapacité complète à agir, voire même une forme de soumission, c'est-à-dire une forme de fuite passive. Il y a toujours aussi un deuxième phénomène qui est essentiel, c'est la recherche d'une issue rapide et facile, comme si on allait résoudre la crise par une action qu'on allait conduire dans les 30 secondes qui viennent. Alors, c'est tout simplement, c'est assez logique en fait, on est face à une situation de menace, on a envie que d'une chose, c'est d'en sortir rapidement. Donc on postule qu'on va pouvoir apporter une solution qui sera rapide et qui sera suffisamment efficace. Ensuite, une fois que l'adrénaline et la noradrénaline sont régulées, il y a la possibilité d'une prise de recul beaucoup plus rationnelle. Une prise de recul qui sera totale ou partielle, c'est-à-dire qu'elle peut être totale sur l'ensemble de la problématique, c'est-à-dire à la fois la situation critique et la situation normale que vit le sujet, ou ça peut être une prise de recul qui est partielle, donc qui est sur un seul aspect de l'expérience que vit le sujet à ce moment-là. Le quatrième point, c'est qu'il y a une haute consommation d'énergie et un risque d'effondrement qui est réel, tout simplement lié à l'épuisement du système. Le corps humain, à ce moment-là, consomme énormément d'énergie, énormément de sucre, donc il a besoin de sucre et d'oxygène pour pouvoir produire de l'énergie. Comme on est en situation de stress, bien souvent, on ne pense pas à s'alimenter. Du coup, il suffit que le sucre baisse suffisamment pour que la personne soit dans la capacité de produire. Et pour l'avoir vécu, ça peut aller jusqu'à ce que la personne tombe dans les pommes parce qu'elle est à un niveau d'épuisement ultime. Et puis, le cinquième point qui est important aussi, qui induit souvent beaucoup d'erreurs, c'est qu'il y a une forme de repli sur les situations qui ont déjà été vécues et sur les solutions qui ont déjà été apportées. Tout simplement, on a vécu quelque chose d'assez similaire, on refait ce qu'on avait déjà fait, ça devrait marcher aussi bien. Sauf qu'à chaque situation de crise, il faut apporter une réponse nouvelle. Au niveau des capacités ou des modalités d'adaptation de l'entreprise, vous allez voir que c'est à peu près la même chose, l'organisation classique essaye de gérer en prenant plus ou moins en considération la dimension critique. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un mode de fonctionnement normal dans une entreprise, dans une organisation, et ils vont essayer de réduire la qualité critique de l'événement qu'ils ont à affronter pour essayer de le ramener dans un mode de fonctionnement à peu près normal et du coup essayer d'y répondre avec la structure normale. Deuxième point, c'est que la validité des décisions qui vont être prises dépend encore plus de l'état des personnes qui vont prendre les décisions et du nombre de personnes qui vont prendre les décisions. En situation de crise, il est essentiel de ramener la chaîne de décision à son niveau le plus restreint. Il faut qu'il y ait un minimum de personnes qui participent à la prise de décision et qui mettent en action la décision qui a été prise. Le troisième point, c'est que souvent les canaux de communication sont saturés et les informations sont contradictoires, ce qui vient amplifier la problématique, en termes de dépassement des ressources par exemple. Le quatrième point, c'est qu'il y a une expérience de distorsion spatio-temporelle qu'on trouve aussi chez le sujet. Donc, je l'ai expérimenté de nombreuses fois quand on demande à des personnes ou à des groupes d'estimer le temps qu'a duré la situation de crise dans lequel on les a mis ou qu'ils ont vécu. On a une évaluation qui peut être 200 à 200%. Bon, les gens ont vécu quelque chose de 10 minutes, ils vont estimer que ça a duré 20 minutes, d'autres vont estimer que ça a duré 2 minutes. Et c'est une expérience sensorielle qui est vraiment très très forte, mais qui montre à quel point le cerveau est complètement engagé dans ce qu'il fait et n'a plus vraiment cette conscience ni de l'espace ni du temps. Et puis, le cinquième et dernier point, c'est qu'il va y avoir des micro-organisations qui vont apparaître sur le terrain pendant toute la durée de la gestion de la crise et qui risquent de contrer la démarche globale qui est impulsée par la direction. C'est-à-dire que sur le terrain aussi, on a besoin d'agir et on va commencer à mettre en place des micro-réponses. Sauf que ces micro-réponses ne vont pas être remontées à l'organe de décision, et du coup, ça ne va pas être intégré dans le schéma global de gestion de la situation de crise.
D'accord. Donc, quand vous parlez de micro-organisation, est-ce que ça veut dire que la direction, il faut qu'elle agisse rapidement et qu'elle déploie une stratégie ?
Alors, là, ça dépend un petit peu de la situation. Il y a quand même des... À mon avis, je pense pouvoir dire avec assez d'assurance qu'il y a des principes stratégiques à mettre en place de manière catégorique. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il faut passer à une organisation directive. Ça peut sembler évident. Ce n'est pas le moment de faire une réunion pour savoir par où on va sortir de l'immeuble lorsque l'immeuble est en flammes. Cependant, passer à une organisation directive, ça veut dire aussi l'annoncer, ça veut dire expliquer, en tout cas informer tout le monde que le mode d'organisation a changé. Si on ne le fait pas, si on n'indique pas que les règles du jeu, de la prise de décision et de l'organisation de l'action des collaborateurs dans l'organisation changent, on va avoir un ensemble de mouvements contraires C'est pas de la rébellion, c'est juste que les gens fonctionnent normalement, on leur a pas dit qu'il y avait une nouvelle norme à laquelle il fallait se soumettre pour pouvoir fonctionner dans cette situation de crise. Ensuite, il faut définir des espaces cohérents et éventuellement autonomes. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, si vous avez une situation de crise sur un site, il y a une cellule de crise qui devrait normalement se monter au niveau du siège, mais cette cellule de crise peut considérer que sur le site, en soi, il y a déjà une organisation qui soit avec une capacité d'action qui lui soit propre et qui lui soit confiée, sans pour autant que tout soit forcément ramené au niveau du siège. Il faut également qu'il y ait une prise de recul et un détachement significatif par rapport à l'effet de l'impact émotionnel. Ça, c'est une des premières choses qu'il va falloir réguler, faire en sorte que l'impact émotionnel sur les personnes qui constituent la cellule de crise, sur l'ensemble des dirigeants et sur l'ensemble des acteurs, soit prise en considération, soit évaluée, entre guillemets, et soit intégrée dans l'organisation de la cellule de crise. Lorsqu'on fait des cellules de crise dans l'administration pénitentiaire, donc admettons sur une prise d'otage, on exige que l'ensemble des membres de la cellule de crise fasse une pause de 20 minutes toutes les deux heures. À commencer par le directeur de la cellule de crise. Si lui ne donne pas l'exemple, alors que c'est le facteur le plus sensible, parce que c'est lui qui est responsable, si lui ne donne pas l'exemple d'un isolement pendant 20 minutes aux autres membres de la cellule de crise, les autres ne le feront pas. Il faut savoir qu'une prise d'otage, à titre informatif, ça dure à peu près entre 6 et 9 heures, ça dépend de la façon dont les choses se déroulent, mais évidemment, vous n'avez pas la même énergie dans les 30 premières minutes de gestion de crise qu'au bout de 8 heures, 8h30. Donc il faut déjà aménager des temps de pause pour pouvoir prendre le temps de réguler ses émotions, s'oxygéner, prendre du sucre, parler d'autre chose, revenir à une forme de normalité pour pouvoir ensuite, en étant un peu plus dégagé de l'effet des émotions, revenir dans la gestion de la situation de crise. Ensuite, il faut absolument communiquer régulièrement et précisément, même si vous n'avez pas d'informations nouvelles à donner. Parce que sur le terrain, le manque de communication descendante fait qu'il y a un ensemble de questions qui restent en suspens. Ces questions génèrent du stress. Si je n'ai pas une réponse qui vient me donner, qui vient me rassurer par rapport à cette question, je vais moi-même chercher à construire ou une réponse à la question ou à agir de façon à éliminer la question, à éliminer ce qui est facteur de stress pour moi. Et c'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure, où il peut y avoir des micro-organisations qui s'installent et qui commencent à agir sur la situation de crise. Il faut faire preuve de responsabilité, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais c'est vraiment essentiel à rappeler dans ces situations-là. On a besoin de sentir que les personnes qui sont en charge assument leurs responsabilités. Donc il faut le dire, mais pas que le dire, il faut aussi l'agir. Il faut que ce soit une expérience forte vécue par les collaborateurs. Et puis, il faut veiller aux signaux faibles de dégradation de l'ensemble des facteurs humains. Ce sont des facteurs qui peuvent être individuels, comme ça peut être des facteurs sociaux. Je pense à une situation de gestion de crise où le numéro 2 de la cellule, c'était l'administration pénitentiaire, avait des manifestations physiques d'agitation qui étaient inquiétantes. On était dans un exercice. Ça m'a inquiété suffisamment pour que je demande à mon collègue qui connaissait l'ensemble des personnes qui constituaient cette cellule si c'était un comportement normal. Parce que pour moi, si ce n'était pas un comportement normal lié au stress, j'avais vraisemblablement en face de moi quelqu'un qui faisait un AVC, pour vous donner l'intensité des manifestations. Vous voyez. Donc, parfois, à un niveau individuel comme à un niveau collectif, il peut y avoir une dégradation qui se fait de manière vraiment massive. Donc, il faut aussi anticiper cet aspect-là.
D'accord.
Là, vous avez les 6 grosses bases, en gros, stratégiques à mettre en place, à garder à l'esprit quand vous avez à répondre à une situation de crise.
D'accord. Quand vous parliez d'impact émotionnel sur le long terme, je présume que si la situation dure trop longtemps, ça peut engendrer des RPS, des burn-out, des arrêts maladie. Comment on anticipe ces situations-là?
Alors, évidemment, une haute consommation énergétique et soumettre des personnes à un stress intense va venir dégrader l'état de fatigue dans lequel ils peuvent se trouver. Et quand je dis fatigue, c'est un terme assez générique, parce que ce n'est pas que de la fatigue physique. Il peut y avoir une forme de fatigue dans la qualité de la relation qu'on a avec l'institution pour laquelle on travaille. Si on a le sentiment, par exemple, qu'on est en situation de surcharge, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'a pas suffisamment d'autonomie, qu'on n'a pas suffisamment de responsabilité, que l'ensemble des processus prennent trop de temps, ça crée une fatigue dans la relation. C'est-à-dire que je dépense beaucoup plus d'énergie que ce qui me semblerait nécessaire et approprié pour conduire le travail qui m'est confié. Donc là, je vais juste faire une petite parenthèse parce que vous avez abordé la question des risques psychosociaux. Je vais juste faire un tout petit focus sur les risques psychosociaux de façon à bien préciser les choses. Les risques psychosociaux, ce sont les risques physiques, psychiques et sociaux qui sont induits par les conditions de travail, par les facteurs organisationnels et par les facteurs relationnels. Donc, dès que vous êtes en groupe, il y a un ensemble de facteurs psychosociaux et ces facteurs portent en eux des risques. C'est-à-dire que les risques psychosociaux, vous les avez aussi dans vos activités associatives et éventuellement dans vos activités avec vos amis ou avec votre famille. Communément, on parle de 6 grands groupes de facteurs de risque. Je ne vais pas les développer là, mais je vais quand même vous les énoncer. Il y a la question, le premier, c'est la question de l'intensité et du temps de travail. Le deuxième, c'est la question de l'autonomie. Trop d'autonomie ou trop peu d'autonomie est un facteur de risque. Trop d'autonomie, la personne a le sentiment d'être abandonnée, complètement laissée sans capacité à son niveau de résoudre l'ensemble des problématiques qui lui sont soumises, et pas assez d'autonomie, c'est une expérience de flicage, avoir tout le temps quelqu'un qui vient faire du micromanagement et qui surveille au-dessus de mon épaule perpétuellement ce que je suis en train de faire. Il y a la question des relations sociales qui est un champ très très vaste. C'est pas juste la qualité des relations que les uns ont avec les autres. C'est aussi la question de la justice ou du sentiment de justice. C'est la question de la rémunération. C'est la question de la reconnaissance. C'est la question de l'intégration dans l'équipe, du sentiment d'appartenir à un groupe. Et on voit que ce thème-là est super important quand on est en train de développer les formes hybrides de travail. Quand est-ce que j'appartiens au groupe? Quand est-ce que je n'appartiens plus au groupe? Il y a la question des valeurs et de l'éthique qui est fondamentale parce que l'ensemble de ces facteurs de risque peuvent amener, lorsqu'ils se dégradent, des atteintes somatiques, médicales, intenses. Mais la question des valeurs, ce facteur de risque seul, là, même si les autres vont bien, juste une problématique de valeur trop intense ou trop longue peut amener une personne à rentrer en dépression, en mélancolie, qui est une forme de dépression encore plus poussée, voire même à mettre en place une stratégie suicidaire. Donc ça, c'est vraiment très très important, mais ça demande, ce facteur de risque-là demande à ce qu'il y ait un véritable travail de fond conduit par les responsables de la structure sur l'accord qu'il y a entre les valeurs qui sont annoncées et les valeurs qui sont vécues au sein de l'entreprise. Il y a la question de l'incertitude, j'en ai parlé déjà un petit peu, la capacité à percevoir l'avenir de l'entreprise ou l'avenir de son poste ou de sa fonction dans l'organisation. Là, je pense que l'intelligence artificielle met beaucoup de métiers dans une forme d'incertitude nouvelle et assez profonde. Et puis, il y a la question des émotions. Donc, comment est-ce que je vis en accord avec mes émotions? Est-ce que je suis obligé de cacher mes émotions? Est-ce que je suis obligé de jouer mes émotions? Je me rappelle quand j'étais étudiant et que je travaillais sur une plateforme téléphonique, on nous disait « souriez au téléphone, ayez l'air heureux au téléphone parce que ça s'entend ». Donc là, on me demande d'afficher une émotion qui n'est pas du tout la mienne. Donc ça, ce sont les facteurs de risque psychosociaux qui peuvent apparaître dans toutes les organisations. Maintenant, je ferme cette parenthèse et j'en viens au trouble. Le trouble, c'est le risque qui est avéré, c'est-à-dire le risque qui se réalise. Vous avez comme troubles psychosociaux les plus connus, le burn-out d'abord, donc l'effondrement, c'est pas juste une grosse fatigue, c'est un effondrement complet de la personne, c'est-à-dire que c'est pas que le collaborateur, le salarié ou le travailleur qui est touché, qui est impacté, ça va au plus profond de lui-même. Je repense, à titre d'exemple, à une femme qui, après une situation de harcèlement, était en burn-out, est rentrée en burn-out. Elle me disait « je suis tellement nul que je pense que je suis même plus capable d'élever ma fille, hein, c'est un bébé, 3 mois, et je suis tellement, tellement nul, et là vous avez un conflit de valeur, que je fais porter la responsabilité de mon échec professionnel à mon bébé. » Vous voyez ? Donc c'est plus le salarié, c'est la mère, c'est la femme qui est profondément touchée, qui est profondément effondrée. Le burn-out, réellement, c'est ça. C'est la destruction du plus profond de la personne, physiquement, intellectuellement, cognitivement parlant, affectivement parlant, et souvent physiquement aussi. Il y a un ensemble de conséquences somatiques importantes. Il y a le bore-out également, qui est apparu il y a quelques années. Donc là, c'est tout simplement une forme d'ennui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réalisation de soi suffisante dans le cadre de l'activité professionnelle. Et puis, il commence à s'installer une forme de conflit de valeur aussi, sur la base de « je ne sers à rien » ou je pense à une personne que j'ai suivie aussi, qui me disait « j'ai un poste dans une entreprise qui est une cage dorée ». C'est-à-dire que je m'ennuie toute la journée. Mais au salaire auquel je suis payé, je ne pourrais jamais trouver une fonction dans une autre entreprise qui soit intéressante avec la même rémunération. Donc ça, c'est typiquement, je vais au boulot, mais je ne rends pas ce que j'y fais, je m'ennuie profondément et ma vie professionnelle perd son sens. Il y a les situations de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, c'est un autre trouble psychosocial. Et puis, vous avez tous les conflits violents qui peuvent apparaître dans les organisations, que ce soit en interne ou que ce soit avec les partenaires extérieurs, les fournisseurs, les clients, etc. Et puis enfin, malheureusement, mais je suis quand même bien obligé d'en parler, les suicides, qui sont la forme ultime des troubles psychosociaux qu'on peut trouver en entreprise. et qui, pour mon expérience, moi j'ai fait des expertises sur des suicides, à chaque fois ça avait touché, dans mon expérience, à chaque fois ça avait touché des femmes, et à chaque fois c'était des personnes qui étaient en situation de management de proximité, donc le premier niveau managérial, des chefs d'équipe ou des responsables d'agence. Donc ça, ce sont les principaux troubles psychosociaux qu'on peut voir apparaître dans les organisations, et en particulier lorsqu'une organisation est soumise à une situation critique. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est qu'on pourrait avoir l'illusion qu'une fois qu'on est sorti de la crise, ben, on a refermé la parenthèse et les choses reviennent comme avant. Et si je prends la crise Covid, je vais l'appeler crise Covid à Escient justement, au sortir de la crise, je ne sais pas si on en est vraiment sorti, mais je travaillais à ce moment-là à la Poste qui fait des réorganisations tous les deux ans, et on était en 2021, et je leur disais, mais la réorganisation que vous mettez en place fin 2021, elle est construite sur les chiffres que vous avez établis en 2019, avec une baisse du courrier, par exemple. Effectivement, on a eu une baisse du courrier en 2020-2021, mais vous n'avez pas intégré l'explosion du colis. Donc, qu'est-ce que vous postulez? Est-ce que vous postulez qu'à la sortie de la crise, la situation va revenir comme en 2018-2019? Ou est-ce que vous postulez qu'à la sortie de la crise, en 2021-2022, la situation sera fondamentalement différente? Il y a eu un temps de réflexion pour finalement décider que, ben, étant donné le coût d'une enquête pour réorganiser le travail, on va postuler que les choses vont être comme en 2018-2019. Alors qu'en fait, on est quand même bien obligé de reconnaître qu'à partir à la sortie de cette situation de crise-là, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde d'avant. Et il y a un autre aspect qui est fondamental, c'est que il faut garder à l'esprit que la traversée d'une situation de crise amène une surconsommation énergétique. Je pensais être seul à faire ce constat, et finalement, il semblerait qu'un groupe de patrons d'entreprise partage mon avis. À mon avis, depuis la sortie de la crise Covid, on est tous à 60% de nos capacités de production, à considérer que 100% correspondait à notre capacité de production de 2019. C'est-à-dire qu'on a accumulé une fatigue psychique, une fatigue neurologique en traversant cette crise, et je ne parle pas de toutes les incidences que ça a pu avoir dans notre vie personnelle aussi, mais ça, ces incidences personnelles ont aussi un effet sur nous, dans notre capacité de production et de réflexion. Ça a eu tellement d'effet qu'en fait, je pense qu'on est toujours dans l'incapacité de revenir à un niveau de production équivalent à celui qu'on avait en 2019. Comme ce problème-là... c'est un problème qui est long, donc ce n'est pas un problème critique, ce n'est pas un problème qui est à gérer comme une crise, et que l'on n'en connaît pas les contours et qu'on a une forme d'incertitude par rapport à son évolution. Généralement, les organisations décident, consciemment ou pas, d'éluder cet aspect du problème, ce qui va venir renforcer le risque d'apparition de troubles psychosociaux et du coup le développement d'autres crises par la suite. Alors, il y a, si on réfléchit sur cet état de fait aujourd'hui, il y a, à mon avis, un focus important à faire aussi sur la question de l'organisation du travail telle qu'elle est apparue un petit peu avant la crise Covid et telle qu'elle est en train de se développer aujourd'hui, c'est le travail hybride et le télétravail. Alors, avant la crise du Covid, le travail hybride était plutôt une demande des salariés. Généralement, les directions d'entreprise n'y étaient pas forcément favorables, en postulant que si la personne restait chez elle, elle travaillerait moins que si elle était sur le site. Donc, sous-entendu, si on pouvait la surveiller, si on pouvait voir qu'effectivement, elle était bien en train de travailler, pas en train de faire autre chose. À mon avis, c'était un petit peu illusoire, dans la mesure où, même sur le travail, si on décide de faire autre chose, on peut tout à fait faire autre chose, en particulier des activités personnelles. Au départ, c'était une demande des salariés, et puis le Covid a imposé un petit peu ça à certaines entreprises. Du coup, à partir du moment où on avait la demande des salariés et puis la nécessité pour les entreprises de mettre en place ce travail-là, il y avait une forme de consensus sur l'idée qu'il fallait permettre l'installation et éventuellement le développement du télétravail. Cependant, cette forme d'organisation et de travail génère ses propres risques. Alors, il y a des risques qui sont assez évidents parce qu'on va pouvoir les identifier comme étant le glissement de risque d'une organisation vers une nouvelle modalité d'organisation. Et puis, il y a des risques qui sont complètement nouveaux, auxquels on n'avait pas du tout pensé. Par exemple, et j'ai commencé à avoir des réflexions assez approfondies avec des services de centre de travail, avec des avocats et des DRH, que fait-on lorsqu'on a une personne qui est en télétravail et qui a un accident chez elle? Que fait-on lorsqu'on a une personne qui est en télétravail et qui est dans un environnement qui, au moment de la mise en place du télétravail, était un environnement favorable au télétravail, mais qui est un environnement qui a changé. Je prends un exemple tout bête. On met Gérard en télétravail parce qu'il le demande, 2 jours par semaine. Gérard va bien, sa femme va bien, ses enfants vont bien. Il se trouve que 3 mois après, la femme de Gérard le quitte. L'entreprise ne le sait pas. Mais les 2 jours que Gérard passe à son domicile à travailler sont 2 jours dans lesquels il est dans un environnement qui est fortement pollué par l'absence de sa femme, l'absence de ses enfants, les conflits qui ont pu s'y passer, etc. Donc, ça n'est plus le même environnement. Donc, on peut considérer, du point de vue de l'entreprise, que l'entreprise n'est pas responsable de ça. Elle n'est pas responsable de ce qui se passe au domicile. Sauf que pendant toute la durée du travail, la personne qui est en situation de travail, elle est sous la responsabilité de l'entreprise. Et la responsabilité de l'entreprise va jusqu'à l'adéquation de l'environnement de travail avec ce qu'il est demandé aux collaborateurs. De la même manière, on a vu ça malheureusement, des personnes qui, je pense à une personne en particulier, qui fait un AVC en visioconférence. Donc, on a les autres qui participent à la réunion, qui voient un de leurs collègues faire un AVC et s'effondrer sans savoir quoi faire. Comment est-ce qu'on le gère? Comment on gère évidemment le salarié, c'est la première urgence, mais comment on gère les autres personnes qui ont été témoins de ça et qui ont été complètement démunies, qui étaient dans l'incapacité réelle de pouvoir agir, de pouvoir porter secours. Et puis, il y a une forme de confusion qui va générer des situations problématiques, c'est que on a un chevauchement et une confusion qui va être de plus en plus importante entre l'espace professionnel et l'espace personnel. À partir de là, comment est-ce que la responsabilité de l'entreprise va pouvoir être engagée lorsqu'il y a des situations défavorables qui se développent alors que la personne est au travail, mais tout en étant dans son espace de vie personnel. Alors actuellement, la conclusion de mes échanges avec les services de ressources humaines, avec les avocats et avec les services de centre de travail, c'est que personne ne sait. Donc, tout le monde attend qu'il y ait un accident, qu'il y ait un jugement et qu'il y ait une jurisprudence, et qu'à partir de cette jurisprudence, on puisse construire des directives et des nouvelles modalités, peut-être, d'organisation du travail ou de répartition de la notion de responsabilité ou d'autres aspects comme ça. Quoi qu'il en soit, actuellement, le droit fait que l'employeur est responsable et a une obligation de santé résultat sur l'ensemble de ses employés pendant tout le temps de travail, et ça comprend aussi le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Donc, en télétravail, l'employeur est aussi responsable de ce qui se passe. Et ça veut dire qu'il est responsable de ce qui se passe dans l'espace privé. Donc, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut anticiper ces problématiques? Bon, alors, la première solution qui est d'attendre, effectivement, qu'il y ait une jurisprudence. À mon avis, d'abord, c'est dangereux, parce que c'est quand même attendre que quelqu'un souffre à un niveau excessif pour mettre en place une action corrective. Donc, si on pouvait anticiper, ce serait quand même mieux. À mon avis, il faut qu'il y ait une réflexion pluridisciplinaire qui soit conduite, avec les ressources internes à l'entreprise, mais avec des ressources spécialisées aussi à l'extérieur. Justement parce que dans toutes les organisations, on va éviter les sujets qui vont avoir une charge émotionnelle ou qui vont avoir une incidence trop lourde. Et en particulier, tous les sujets qui vont avoir avec la souffrance et avec la mort. Donc il vous faut une ressource extérieure qui puisse venir poser ces questions-là, qui sont des questions de bon sens en fait, et qui puisse amener l'organisation à s'y confronter. Il faut des ressources extérieures aussi qui puissent vous accompagner dans la création de solutions absolument nouvelles. C'est-à-dire que vraisemblablement, pour une situation critique qui apparaîtrait dans un contexte de travail hybride, les solutions que vous mettez en place actuellement dans une organisation de travail traditionnelle ne seront pas adaptées. C'est quelque chose de tout simple, hein, mais par exemple, si vous voulez prévenir la question des AVC, par exemple, il y a un aspect technique qui est tout bête. Vous avez un salarié, votre siège est basé à Grenoble, vous avez un salarié qui habite dans le Rhône, il fait un AVC à son domicile, vous allez appeler les pompiers, vous allez tomber sur les pompiers de Grenoble qui sont dans l'incapacité de vous envoyer vers le SDIS du Rhône. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sache précisément où sont les lieux de travaux des salariés qui sont en travail hybride. Il faut qu'on ait leur département, il faut qu'on ait les numéros d'accès direct des secours à ces endroits-là. voyez. Et éventuellement qu'on ait deux, trois numéros de personnes qui sont proches pour pouvoir alerter. Donc il y a tout un travail, il y a une vraie démarche de réflexion et de création de nouvelles modalités d'organisation et d'appréhension du risque pour pouvoir essayer d'anticiper les situations qui pourraient apparaître dans ces contextes-là de travail hybride et de télétravail. Et puis, ça c'est une conviction personnelle, je ne tiens pour vrai que ce dont j'ai fait l'expérience, et dans tout mon travail de formateur, c'est quelque chose de fondamental, il faut faire des exercices, il faut s'entraîner, il faut se confronter à la réalité virtuelle, entre guillemets, c'est-à-dire construire des scénarios, partir de scénarios qui ont déjà existé, dans des structures qui peuvent être très différentes des nôtres, c'est pas un problème. Mais voilà, il faut s'entraîner pour voir quelles sont les réponses qu'on met en place, pour voir quelles sont les réponses que l'on arrive à créer parce qu'on est en situation de stress, parce qu'on est en interaction avec telle et telle personne et pas avec telle autre. Tous ces temps d'entraînement et d'exercice sont, à mon avis, les solutions les plus efficaces, les modalités de création de solutions les plus efficaces. Après, on fait des exercices, on s'appuie sur des éléments théoriques, sur des éléments de droit, sur des éléments sur des règlements pour pouvoir élaborer des protocoles qui sont tout simplement des débuts de trames de solutions en fonction des différents types de situations de crise que l'on a pu envisager et anticiper. Pour vous donner une illustration de cette nécessité-là, conjointement, je travaillais avec les pompiers sur la gestion des situations de catastrophe et je travaillais avec les groupes d'intervention dans la pénitentiaire sur les situations de catastrophe aussi. Et je posais la question aux officiers des deux groupes, qu'est-ce que vous mettez en place comme protocole si c'est vous l'officier qui est amené à être blessé dans l'incapacité de prendre des décisions ou qui décédait. Et les deux refusaient tout le temps de faire ces exercices-là. Les deux, quand je dis tout le temps, c'est que ça a duré des années. Et finalement, j'ai réussi à faire avancer les deux côtés en disant aux pompiers, ah, ben, dans les ERIS, ils ont déjà avancé sur cette question, on fait des exercices. Du coup, par orgueil, ils disaient, bon, ben, on va y aller aussi. Du coup, je disais aux ERIS, ah, ben, les pompiers font des exercices là-dessus, donc ils prennent de l'avance sur vous. Du coup, par orgueil, ils finissaient par avancer aussi, vous voyez. Donc, parfois, pour affronter des situations qui nous font profondément peur, il faut s'appuyer sur des caractères humains, parfois aussi basiques que simplement la fierté ou l'orgueil. Mais au bout du compte, ça a permis quand même d'avancer et de mettre en place des ébauches de solutions, des ébauches de réponses qui étaient déjà suffisamment efficaces.
Cool, j'ai plus de questions. Merci beaucoup.
Merci.
Laurent.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée.
Bonne journée à tous. Au revoir.
Au revoir.